RFI. Grand reportage.
Au Brésil, la grande majorité des écoles resteront fermées toute cette année 2020, faute de moyens pour limiter la pandémie de coronavirus. Le confinement et l'enseignement à distance ont approfondi les inégalités sociales dans le pays où un Brésilien sur quatre n'a pas accès à Internet. Obésité, anxiété, comportement agressif et dépression, les experts mettent en garde contre les conséquences négatives de l'isolement social sur les enfants, comme nous allons le voir à Rio de Janeiro. Brésil, le coronavirus fragilise la santé mentale des plus jeunes. Un grand reportage de Sarah Cosolino.
Nous sommes dans la favela de Tabajaras qui surplombe le quartier de Copacabana. Dans une petite salle aux murs colorés, une dizaine d'enfants peinent à garder leur masque pendant leur activité de théâtre. Les écoles publiques, elles, sont fermées depuis 8 mois.
Je pense qu'un jour, ça va revenir et on recommencera tout à nouveau, comme avant le coronavirus. Et on sera ici pour faire du théâtre. Et on s'amusera en faisant une représentation devant plein de personnes. Mais avec les masques et tout ça, je ne pense pas que ça se fasse. C'est très difficile pour moi de garder le masque, ça me gratte beaucoup le nez. Et la distance, on n'arrive pas vraiment à rester à distance les uns des autres, c'est trop dur. Tout le monde me manquait, ça faisait longtemps que je ne voyais pas certains copains. Je sentais une grande nostalgie.
À 12 ans, Eduardo participe aux activités d'une association qui vient de rouvrir ses portes. Quelques heures par jour, il s'échappe de la réalité de sa favela.
Je m'appelle Ana Claudia, j'ai 10 ans et pour moi ce projet c'est toute ma vie. Parce qu'ici on étudie, on s'amuse et on se fait de nouveaux amis. Et on reste avec tous ceux qu'on aime. À la maison je me sens triste, mais dès que j'arrive ici je me sens très heureuse.
Vania Ribeiro tente d'expliquer à Eduardo comment mieux articuler pour qu'on l'entende à travers le masque. Elle est à la tête de l'association des habitants de Tabajaras.
C'est l'une des choses qui m'a le plus impressionnée. Les enfants ont une folle envie d'étudier. La réalité du Covid est très compliquée. Nous avons commencé à valoriser ce qu'on ne valorisait pas avant. Ce qui était normal avant a pris une énorme importance. L'éducation a pris une énorme importance. Donc ces enfants qui allaient parfois à l'école à reculons ont commencé à sentir un grand manque de l'école. Ils ont compris l'importance d'étudier.
Salonia Branches nous fait visiter les locaux de Luta pela Paz, une ONG du complexe de favela de Maré dans la zone nord de Rio. Il est psychologue au sein de l'institution.
L'année dernière, à Maré, nous avons assisté à une explosion de cas de jeunes et d'adolescents victimes de violences autoprovoquées. Il était courant que les écoles nous envoient des jeunes qui s'automutilaient. Nous en avions qui souffraient de violences intenses, qui étaient dans des cadres dépressifs très graves. Et tout cela s'est intensifié durant la pandémie.
Pendant quelques mois, l'équipe de psychologues de l'ONG a offert des consultations en ligne pour ceux qui vivaient mal le confinement.
Parfois, ils voulaient parler de leurs souffrances dans leurs relations avec leur famille. Parfois, des difficultés de n'avoir aucune activité. Et nous avons donc créé un instrument qui a été très important pour eux, le journal de quarantaine. Ils pouvaient raconter leur quotidien, ce qu'ils voulaient. Et l'idée, c'était de parler de santé mentale comme de n'importe quelle autre chose, pour qu'ils se rendent compte que tout le monde a des problèmes avec ça.
Bonjour, je m'appelle Mateusz. J'ai 21 ans, j'habite la favela de Nueva Holanda, dans le complexe de Maré.
Pendant 2 mois, Mateusz a profité de ses consultations en ligne.
Les consultations individuelles ont changé ma vie. Parce que la psy m'a donné une injection énorme d'estime de moi-même. Parce que quand je lui disais comment je me sentais, je parlais très mal de moi. Et en fait, certaines choses que je disais de moi, je me suis rendu compte que c'était des choses qu'on m'avait répétées. Je disais que j'étais une personne inutile. Et elle m'a permis de me rendre compte que ce n'était pas le cas. Parce que je faisais du travail bénévole, que j'écrivais un projet, que j'aidais des personnes. Et même avec tout ça, je me sentais inutile. Avec elle, j'ai compris que ce n'était pas le cas.
Avant la pandémie, Mateusz étudiait pour le vestibulaire, l'examen d'entrée aux universités publiques. Il avait des cours tous les jours, il participait à un atelier de théâtre, à un club de lecture. Mais quand toutes les activités sont devenues virtuelles, il a décroché.
Pour moi, ça n'a pas du tout marché parce que l'accès à Internet est très mauvais. J'avais un vieux téléphone qui datait de 2015, donc il n'y avait pas de mémoire pour télécharger Zoom ou Google Meet, des applications lourdes, donc ça ne marchait pas sur mon téléphone.
Donc arrêter toutes ces activités a beaucoup affecté ta santé mentale.
Oui, parce que quand j'ai arrêté le lycée, j'étais à la recherche d'un emploi. Et puis, comme je n'en ai pas trouvé pendant 2 ans, je me suis mis à chercher d'autres choses pour occuper ce temps que je passais au lycée. Donc le club de lecture, tous les jeudis, la prépa, tous les jours, les cours de théâtre, les mercredis. Quand tout ça s'est arrêté, je n'avais plus aucune routine. Je me suis retrouvé à la maison.
Dans la maison de Mateusz, qui est plutôt un petit studio, entre sa mère, son beau-père, ses frères et sœurs et leurs enfants, ils sont 9 au total.
C'est le chaos. Personne ne s'est confiné. Tout le monde a toujours continué à circuler dans la rue. Enfin, comme tout le monde ici à Marais. Mais nos relations sont étranges. On n'a jamais été une famille vraiment très unie, qui discute. On n'a jamais eu ce truc de famille soudée. Chez moi, il n'y a que 2 chambres, donc je dors dans une chambre avec mon frère, sa femme, leur petite fille, et ma belle-sœur est de nouveau enceinte, du second. On n'avait jamais passé autant de temps ensemble. Au début, c'était plus difficile. C'était des engueulades pour la télé, pour Internet, pour un chargeur de portable. Les choses les plus futiles. Mais aujourd'hui, bon, c'est toujours difficile, mais ça va un peu mieux.
Ça a beaucoup changé vos relations ?
Beaucoup, je me suis rendu compte qu'il valait mieux que je ne parle plus avec les gens. Donc maintenant, au lieu de rester chez moi, je vais souvent chez ma tante. Il y a moins de monde chez elle, juste elle et ses 2 filles. Donc il n'y a pas cette agitation, ce grand bazar, ces cris en continu. Parce que ma mère crie beaucoup, surtout parce qu'il y a 3 enfants, donc ça fait un vacarme. Ça me dérange vraiment. Je n'arrive plus à lire. Parce qu'avec cette pandémie, beaucoup de gens se sont retrouvés chez eux et tous les bruits se sont amplifiés. Même le bruit de marée a triplé de volume. Déjà que c'est une favela bruyante, donc je n'arrive plus à lire. Alors parfois, je prends un livre et je vais chez ma tante. Parce que le club de lecture est aussi passé en ligne. Et c'est le seul que j'ai réussi à continuer. Le seul pour lequel j'ai fait un effort.
Nous entrons chez Adirlene dos Santos. Elle habite dans le complexe de favela de Alemão, une favela connue pour sa violence. Dominée par la faction du Comando Vermelho, les affrontements avec la police sont très fréquents. Pendant la pandémie, c'est le Comando Vermelho qui a imposé un couvre-feu aux habitants. Avant d'arriver chez Adirlene, on passe devant une série de magasins dont les rideaux de fer sont percés comme des passoires par les impacts de balles. En face de chez elle se trouve un point de vente de drogue et ses enfants ne peuvent pas jouer dehors.
Voici Pedro. Il va avoir 12 ans ce mois-ci. Elle, elle a 10 mois. Celle-ci, 3 ans. Celle-là, là-bas, va avoir 8 ans. Et l'autre, là-bas, viens ici, Pamela. Elle a 10 ans. Elle est en train de laver la salle de bain. Viens ici.
Assise sur son canapé, Adirlene y allaite sa petite fille pendant qu'elle nous parle. Autour d'elle, les 4 autres enfants sont très sages et silencieux. Il n'y a pas de télévision ni d'ordinateur et les enfants n'ont pas de portable.
Pour moi, ça a été horrible. Je pense que si je tiens encore debout, je le dois à Dieu. Ma vie n'a pas été facile. Après la naissance de la dernière, il y a eu la pandémie, le chômage, l'école a fermé, je suis tombée en dépression. Je m'en suis remise à Dieu. Et puis j'ai dû me séparer de mon conjoint à cause d'une urgence. Parce qu'après 6 ans de relation, j'ai dû faire face à une grande déception. J'ai même dû voir un psychologue. Parce que mon conjoint a abusé sexuellement de ma fille. Il l'a harcelée. C'était un vendredi, le 20 mai. Il pleuvait très fort. C'est ce jour-là que je l'ai vu de mes propres yeux. Dieu m'a réveillée cette nuit-là et je l'ai surpris en train de tripoter ma fille. J'ai été au commissariat, maintenant il est recherché. Enfin, je ne peux pas dire que ma vie soit facile. Sans emploi, avec 5 enfants, et puis l'école, ça m'aidait beaucoup. Il y avait la cantine, le goûter, et puis c'était un peu de repos pour moi. Je pouvais m'occuper de la maison, de la plus petite. C'est vraiment pas facile.
Depuis le début de la pandémie, Adirlene y vivait grâce à l'aide d'urgence du gouvernement de 600 reais, l'équivalent de 90 euros. Mais une fois le loyer payé, il ne restait plus que 30 euros. Et ce mois-ci, l'aide financière est divisée par 2. Alors Adirlene y dépend des dons de paniers alimentaires qui arrivent occasionnellement.
J'espère que tout ça est bientôt terminé, qu'on trouvera vite ce vaccin et que les enfants retourneront à l'école. parce qu'ils sont tout le temps dans la maison et ils se relâchent. Ils ne veulent pas étudier parce qu'ils préfèrent jouer, se coucher un peu plus tard.
On entre dans le collège Santo Inácio, un des établissements privés les plus prestigieux à Rio. Alors que les écoles publiques ne rouvriront pas avant 2021 à Rio, les écoles privées ont pu rouvrir depuis le mois d'octobre avec un protocole strict.
Ici, ça a été très bien encadré. Les élèves entrent par ce portail, chaque série suit une couleur et ça marche très bien. Ils sont très obéissants. Là, quelqu'un prend la température des élèves de cette série ici et une autre personne d'une autre série ici. Et chaque série a son étage.
Ana Maria Loureira, directrice académique de l'établissement, nous fait faire le tour des locaux.
Sur chaque table se trouve le numéro de l'élève. Et jusqu'à la fin de l'année, ce sera toujours le même qui s'assiera ici. Donc s'il a quelque chose, on sait qui était à côté, quel professeur il a eu, on peut tout retracer. Les récréations ont été suspendues. Ils amènent un goûter de chez eux parce que la cantine est fermée. Et c'est un moment où ils peuvent discuter, se détendre un peu, aller aux toilettes, remplir leurs bouteilles d'eau, etc. Mais c'est une décontraction contenue.
Ils ne sont que 8 dans cette salle de classe. Entre le professeur et les élèves se trouve un ordinateur. Pour qu'il y ait moins de monde, la classe a été coupée en deux. Une moitié vient une semaine sur deux, pendant que l'autre assiste au même cours en ligne.
C'était vraiment nécessaire, parce que je sentais que j'arrivais moins bien à apprendre avec l'enseignement à distance. Je commençais à être saturé après 6 mois de ce système.
Eduardo Alexandre a 16 ans, il est en première et a repris les cours en présentiel il y a 2 jours.
Je suis vraiment très content d'avoir pu reprendre les cours et je pense que c'est très important pour beaucoup d'autres élèves. Avant tout pour une question psychologique, parce que même si je n'ai pas été très affecté, c'est bien mieux. On se sent bien mieux psychologiquement quand on est avec d'autres personnes en cours. Parce qu'en classe, on a évidemment besoin de concentration, mais c'est aussi important de pouvoir avec des moments de décontraction, avec ses amis, avec le professeur aussi, qui fait quelques blagues de temps en temps. C'est très important et ce sont des choses que l'enseignement à distance, aussi intéressant soit-il, ne pourra jamais offrir. Pour moi, c'est vraiment la grande différence avec les cours en présentiel, qui fait que certaines personnes qui n'étaient pas très bien commencent à se sentir mieux avec ce retour.
L'école Cataventos ressemble plus à une grande maison qu'une école. Dans le grand jardin, les enfants courent dans tous les sens, entre l'arbre d'acérola, le tuyau d'arrosage et l'atelier de peinture. Mais ici, pas de masque.
Mon Dieu, j'ai vu un tel soulagement quand je leur ai dit qu'ils pouvaient retirer le masque. Et il faut comprendre que si pour nous c'est difficile pour parler, respirer là-dedans, pour eux aussi. Et parfois, ils ont des difficultés d'expression, des problèmes de diction. Et parler devient encore plus compliqué. Donc ici, c'est un lieu où ils peuvent l'enlever, s'il y a des risques, bien sûr. Mais porter mal le masque aussi comporte des risques, alors ?
Raquel Reiss est psychologue, spécialiste en éducation infantile et a cofondé cette école au projet éducatif un peu particulier qui accueille des enfants entre 1 et 5 ans. Au début de la pandémie, pendant le premier mois, les parents l'ont contacté pour lui demander de l'aide et raconter leur quotidien.
Les enfants se sont sentis comme des super-héros. Le premier mois, ils étaient tout puissants. Pourquoi ? Eh bien parce que l'année scolaire commençait à peine et les enfants pleuraient un jour sur deux en disant « Je ne veux pas y aller, je veux rester avec ma maman, je veux rester à la maison, je veux maman, etc. » Et d'un coup, la maman était là pour eux. Puis le temps est passé, l'enfant s'est dit « Bon, c'est ce que je voulais, mais pas exactement comme ça. » Et c'est là qu'a commencé la frustration. Donc c'est le début des caprices. Les enfants ne voulaient plus rien faire à la maison. Ils ne voulaient plus voir de vidéos, plus rien. Puis ils voulaient tout d'un coup, ils voulaient commander tout le temps. Et c'est là qu'ils ont commencé à remettre en question l'autorité. Parce que jusqu'alors, l'autorité, c'était les parents. Mais ils ont découvert qu'eux aussi pouvaient avoir une forme d'autorité. Quand ils découvrent leur autorité, ça devient compliqué. Et le temps est passé. Mais la pandémie était toujours là. Ça n'a servi à rien de faire des caprices. Tout ça n'a servi à rien et ils étaient toujours avec leurs parents à la maison. C'est là qu'ont commencé les agressions. Les enfants ont été violents dans le sens où ils ont commencé à taper sur leurs frères et sœurs, sur leur mère. Parce qu'ils tentent des stratégies stratégies qu'ils connaissent pour résoudre un problème qui n'est pas le leur, qu'ils ne réussiront pas à résoudre. Si vous me demandez comment va leur santé mentale, eh bien, ils sont dans une impasse. Parce que rien de ce qu'ils feront ne marchera. Et on leur fait savoir. Imaginez-nous, en tant qu'adultes, si nous on dit « rien de ce que tu feras ne marchera », en tant qu'adulte, ça générera une frustration énorme. Alors imaginez en tant qu'enfant.
On va retrouver la famille Deno. Tous les vendredis, ils font une petite escapade sur l'île de Paqueta. C'est une petite île où il n'y a pas de voiture. En face de Rio, à 45 minutes de barque environ. C'est une île bien tranquille et apparemment, ils en ont vraiment besoin avec leurs deux enfants en bas âge.
Bonjour. Ça va ? Et bonjour Théo.
C'est timide, ouais. En fait, l'idée, c'est vraiment de créer un îlot sanitaire et se permettre d'avoir une expérience un peu similaire à celle qu'on avait avant le coronavirus, en fait. C'est-à-dire qu'on enlève le masque, on n'a pas forcément autant d'alcool gel, on arrive à... La promenade en vélo nous font prendre pas mal l'air libre et ça fait sortir un petit peu de cette hyper-hygiénisation qu'on a dans la ville avec le coronavirus. Tu veux me donner la main, Pépé ?
Comme le gouvernement n'a jamais imposé de confinement au Brésil, Damien et Roberta se sont auto-confinés depuis 8 mois. Tous les deux en télétravail, ils s'occupent de leurs enfants de 1 et 3 ans dans un appartement dont toutes les fenêtres donnent sur l'immeuble d'en face.
À un moment, on commençait à se dire il faut vivre, il ne faut pas juste survivre. Parce que jusqu'ici, c'était vraiment par la vie, quoi. Donc, on commençait à se demander qu'est-ce qu'on pouvait faire vraiment pour nous aider et aider les enfants aussi. Parfois, on sommes très concentrés les enfants, mais il faut s'occuper des parents aussi. Parce que si les parents ne vont pas bien, ce n'est pas possible de s'occuper d'enfants. C'est les basiques. Quand on prend l'avion, il faut mettre la masque d'abord en toi et après dans les enfants. Donc, il faut assumer les rôles des adultes. Nous sommes aussi angoissés, nous sommes aussi stressés, nous avons aussi peur d'avenir. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec la réalité qui est face à nous, mais en même temps avec toutes les ressources que nous avons.
Roberta est psychologue. Depuis le début de la pandémie, elle a observé un changement de comportement chez son fils Théo. Du stress, des accès de colère, des épisodes de sidération, de tristesse.
C'est pas évident parce que souvent on pense à la question de la santé physique. Mais il y a toute une question là, de la question émotionnelle, psychologique. C'est assez tendu, assez difficile. Et pour moi, ça, c'est le dégât plus grand encore qu'on va besoin d'enfanter dans les prochaines années. Parce qu'il y a pas mal de gens qui vont avoir des stress post-traumatiques aussi. Donc même après, si le coronavirus il va sortir, partir au moment, on ne sait pas encore si ça va arriver. Il y a toute une question psychologique qui va nous accompagner en tant que société. Même les rapports entre les Brésiliens, nous sommes très très chaleureux. Donc nous sommes toujours en train de toucher les gens, de s'embrasser. Et là, cette distance sociale, c'est assez difficile pour nous pour être très très attentifs et préoccupés en tant que psychologue et avec toutes les politiques publiques aussi, de s'occuper des émotions et de la question de la maladie mentale, vraiment. Parce qu'il y a pas mal de dégâts qu'on va encore vivre dans les prochaines années, je crois.
Est-ce que tu sais ce que c'est, toi, le coronavirus ?
Des coronavirus.
T'arrives à expliquer ?
Oui, il est invisible et partout.
Il est invisible et partout ? Ah ouais ?
Mais il n'est pas dans mon école, nous ordine. La scola, non.
Non ? Est-ce que le coronavirus, ça fait longtemps qu'il est là ou ça fait pas très longtemps ?
Ça fait beaucoup longtemps.
Nos semaines sont entre quatre murs et le vendredi, c'est cocotier, sable fin, petit air frais et grand soleil. Ça change. C'est vraiment un refuge. Et au-delà d'un refuge, le jour même, c'est un peu notre ligne de mire pendant la semaine, en fait. On attend vendredi avec impatience pour pouvoir s'exiler un peu et se ressourcer. Et on sait que les gamins aussi vont prendre plaisir. Et c'est un moment où on est à quatre sans penser à autre chose. Le reste du temps, même le week-end, on a tendance quand même vachement à répartir la journée entre je reste avec la gamin, tu bosses. Bah là, tiens, tu restes avec eux, moi, je vais faire le ménage. Et assez très, très logistique et répartition du temps, en fait. Parce que ce travail à la maison fait qu'on n'a plus vraiment de vie privée et vie pro séparée. Donc en fait, on est toujours en train de faire quelque chose. Et là, ce vendredi, c'est vraiment... Un petit havre de paix au milieu de la tempête.
C'est un pays qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie.
Brésil, le coronavirus fragilise la santé mentale des plus jeunes. Un grand reportage signé Sarah Cosolino, réalisation Pierre Chaffonjon.